Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Bonjour les coucougnoutes.
Salut Agatha.
Bonsoir ma sœur.
Mais Charline, c'est pas ta sœur, ça n'est pas possible.
Elle dit quoi la go même?
Eh, ça va, ça fait deux jours, non?
Oui, tu es très en beauté aujourd'hui ma sœur.
Eh, bon. Merci. C'est un petit ensemble que Tanti m'a ramené de Ouagadougou.
Mais les filles, ça se voit que vous n'êtes pas sœurs, il y a des indices quand même.
Mais qu'est-ce qu'il a ce gaou aujourd'hui?
Ah, il a pas inventé l'eau chaude, hein.
Oh, et Rukyata, il s'appelle comment ton oncle?
Tonton Théophile, bien sûr.
Voilà, et Charline le tient?
Bah, Willy, il s'appelle Willy.
Voilà, Willy, c'est belge, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas sûr, on n'est pas le même oncle. Voilà, c'est
Oui, mais Rukyata, il écoute pas, hein. Nous, on va enjailler ce florilège,
bon,
même.
Justement, Rukyata, si t'es là, c'est parce qu'on a une grande confiance en
oui,
toi.
D'ailleurs, on n'est pas loin de penser que t'es la meilleure chroniqueuse de l'émission.
Et donc, on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Ouais, sinon la famille, ça va,
enfin,
la maman.
Mais ça recommence, mais on va parler de l'émission du jour, oui.
Et toi, Charline, tes parents, ça va?
On se maintient.
Non, mais je vais annoncer moi-même les festivités. Dernière émission best-of. Mm-hmm. On réécoutera le journaliste François Saltiel et la dessinatrice Catherine Meurice.
Mm-hmm. Ah, c'est la sœur de Guillaume?
Mais non, mais tout le monde est pas sœur avec tout le monde, c'est qu'aussi soit.
Et la voisine, ça va, oui?
Le voisin, ça va.
Les filles, excusez-moi de vous demander ça, mais pouvez pas vous taire?
Tu sais, Alex, il y a un proverbe chez moi qui dit que le silence est la seule chose en or que les femmes n'aiment pas.
Quel bon sens, c'est burkinabé.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans le dernier épisode des vacances de l'Open Space. Et aujourd'hui dans le Airbnb de l'actualité, nous recevrons François Saltiel, chroniqueur de 28 minutes sur Arte. Très calé en réseaux sociaux, il nous expliquera qu'à Milan, un restaurant propose d'offrir le repas aux influenceurs d'Instagram. On parlera aussi de la fête, comment bien la réussir et comment montrer qu'elle est réussie. On accueillera ensuite l'auteur de bande dessinée Catherine Meurice, avec qui on se demandera si la France ne devrait pas carrément créer un parti féministe, une innovation tout à fait possible.
Moi, je vote pour.
Et tandis qu'en matière de BD, à quoi ressemblent les dernières innovations? On verra avec Catherine Meurice. Alex, qui avez-vous emmené dans les valises?
Eh bien, Rukyata Ouédraogo nous entretiendra du caractère sacré de la parole. Ça sonne bien déjà. Hein. Et puis, c'est vendredi, c'est Christine Gonzalez. Elle s'est entretenue, elle, avec Maria Callas. Il s'avère que Mireille Mathieu est passée dire bonjour. Et puis, la chronique de Juliette Arnaud sur le livre de l'invitée Catherine Meurice. Et on terminera la journée, comme toute cette semaine et comme toutes les semaines, avec Frédéric Fromet qui nous chantera « Rien à carrer ». C'est clair, c'est net.
Allez, on commence hyper connecté avec François Saltiel.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonsoir François Saltiel.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Mais avec plaisir, les téléspectateurs de 28 minutes vous connaissent bien, car vous arrivez à la fin de l'émission avec le camarade Xavier Mauduit, dans l'émission d'Elisabeth Quin, tous les jours à 20h05 sur Arte. Signalons d'ailleurs que vous faites d'excellentes audiences et que vous dépassez parfois Cyril Hanouna. Et vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Le vendeur de thé qui changera le monde » avec un hashtag et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies. Paru chez Flammarion. Et en effet, vous regardez aussi, c'est vrai, la géopolitique et les histoires de réseaux, etc. Vous êtes très féru de tout ça. C'est ce que vous racontez notamment aussi sur Arte. Alex Vizorek, quid du hashtag?
Hashtag, j'ai géré le livre.
Avec autant de J que ça.
Hashtag bégayement. Non, le hashtag qui est rentré dans nos vies 2007, créé par un ingénieur américain de chez Google, dont on dira bien du mal dans le premier sujet. Mais quand même, c'était pour donc, au départ, classer les thématiques sur Twitter. Et vous en avez tiré 10 histoires qui ont marqué notre histoire depuis donc 10 ans. C'est-à-dire que le hashtag a changé le monde. Et vous, ce que vous avez envie de dire, c'est que aussi les réseaux sociaux, il y a un côté positif, il n'y a pas que la fachosphère, et il n'y a pas que les gens pour critiquer des autres. Et vous ouvrez, et c'est le titre du livre, par un hashtag peut-être le moins connu des 10.
C'est vrai.
Non, mais c'est Chaiwala, hashtag Chaiwala. Et ça permet donc cette mise en perspective, comme le disait Charline, de l'histoire du monde, parce que vous nous racontez, moi j'ai découvert l'histoire du Cachemire, que je ne connaissais pas du tout par ce hashtag. Pouvez-vous nous l'expliquer brièvement?
Oui, le hashtag Chaiwala, c'est du pakistanais. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez le pakistanais ici, mais
bien
ça veut dire... Vous savez tous ce que ça veut dire, vendeur de thé, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est un petit hashtag. Effectivement, c'est dans ces 10 histoires, c'est celle qui est la moins connue, peut-être la plus futile, mais qui raconte quand même quelque chose d'important sur notre société. Je vous fais l'histoire rapidement. C'est une photographe de mariage qui se balade comme ça sur le marché d'Islamabad. Elle n'est pas vraiment au travail, hein, donc elle est tranquille, elle se balade sur le marché, les effluves, les couleurs, et puis elle voit au loin, un vendeur de thé, mais magnifique. Mais vraiment quelqu'un de somptueux, 18 ans, les yeux verts. Donc elle le capture comme ça avec son appareil photo. Hop, elle saisit l'image. Et puis ensuite, elle rentre chez elle, elle publie l'image sur Instagram avec le hashtag Shaiwala, vendeur de thé. Et puis un petit jeu de mots qui dit hot tea, comme si c'était vraiment quelqu'un de très très joli. Et d'un coup, eh bien, en quelques heures, cet homme, Ashraf, va faire le tour du net et va devenir une véritable personnalité. Tout le monde le trouve magnifique, très beau. Jusque-là, c'est pas très intéressant.
Gros coup de bol, on a envie de dire, pour le gars, quand même. Facile de devenir une personnalité.
Sauf que, au même moment, entre l'Inde et le Pakistan, il y avait des tensions. Vous savez bien que les deux pays sont en conflit très régulièrement autour de la région du Cachemire. Mais cette photo de cet Indien très très beau va traverser la frontière et va aller jusqu'en Inde. Et les Indiennes et les Indiens vont dire, mais attendez, arrêtons d'envoyer nos bombes, la bombe atomique, c'est lui. Et d'un coup, il va se retrouver à son insu, sachant qu'il sait ni lire ni écrire, hein, ambassadeur de la paix. C'est une sorte de petite trêve du thé. Voilà, le Gandhi des temps modernes, le Gandhi 3.0. Et la télévision pakistanaise vient le voir en disant, mais on parle de vous partout. Alors lui, il le découvre, hein, il sait ni lire ni écrire. Et il se rend compte qu'il est devenu une star et il va dire, bah voilà, finalement, mon plus grand rêve, ça serait de tendre la main à mon frère indien. Et l'espace d'un instant, on a pu ressentir un apaisement grâce à cette photo, grâce à cette notoriété accélérée que les réseaux sociaux ont pu engendrer. Donc voilà, c'est une petite histoire un peu conte de fées.
Oui, des hashtags que vous traitez émanent de femmes et dont 5 ou 6 sont des vrais combats purement féministes. Donc ça aussi, ça a joué beaucoup sur la condition de la femme, ça a beaucoup aidé.
Exactement, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, encore une fois, si on s'intéresse que sur la partie positive des réseaux sociaux, ça peut être la voix des sans-voix. Alors non pas que les femmes n'ont pas de voix, mais on le sait très bien que dans l'espace physique, elles sont discriminées, elles sont payées moins bien que les hommes, je sais pas si c'est le cas ici. Bon bref, en tout cas en France, elles le sont, au moins 24% si on prend tous les secteurs confondus. On les entend moins, elles sont moins invitées sur les plateaux de télévision. Donc forcément, quand ces femmes-là ont eu un compte Twitter ou sont arrivées sur les réseaux sociaux qui étaient un terrain vierge, elles ont pu exprimer, elles ont pu faire part de leurs ressentis, des discriminations et donc fédérer autour d'elles. On l'a vu aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de causes, par exemple de gens discriminés comme la communauté homosexuelle, comme la communauté afro-américaine si on parle des États-Unis. Donc c'est vraiment
les
aussi...
Belges, hashtag seul.
Ah, hashtag les Belges, ouais, ça c'est vrai qu'ils s'en prennent souvent plein la tête. Mais en tout cas, ça sert à ça les réseaux sociaux, ça peut être aussi une caisse de résonance pour ceux qui sont discriminés dans l'espace physique.
C'est autant d'opportunités de s'exprimer que de se faire pourrir aussi quand même les réseaux sociaux.
Ça reste qu'un outil, c'est vrai.
Alors je me suis dit, est-ce que si dans l'histoire ça avait existé, est-ce que par exemple avec le hashtag sans culotte mon pote, la révolution française aurait été plus rapide?
Elle aurait été plus rapide, ouais. Ah, effectivement, elle aurait peut-être duré 28 minutes, je sais pas. Mais oui, effectivement, ça aurait été plus rapide. Ouais.
François Saltiel, on va bien sûr revenir sur les réseaux sociaux qui énervent.
Le vendredi, il y a parfois des mots du premier groupe.
Tous les sujets traités dans cette émission, je vous sens chaud. Hein. VDB, il est à fond réseau aussi.
À fond dans les réseaux.
J'adore tous les hashtags.
François Saltiel, oui, ces histoires-là, vous pouvez les retrouver dans Le Vendeur de thé qui changera le monde avec un hashtag et autre histoire de hashtag. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Wah, wah, wah. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Et Alex Vizorek, vous aurez bien sûr reconnu Harry Nilsson, vous ne connaissez que lui.
J'aime beaucoup.
Everybody's talking.
Tout le monde parle.
En plus, c'est votre titre préféré, c'est vraiment, mais quel hasard formidable.
Merci,
merci beaucoup à la programmation musicale. C'est François Saltiel qui est avec nous. Voici un premier sujet. Les salariés de Google sont en plein dilemme. Lancer un moteur de recherche en Chine, moteur qui devra appliquer les règles de censure imposées par Pékin, ou refuser d'être présent en Chine pour éviter de collaborer à l'oppression dans les pays occidentaux. Bon, chez nous, cette question s'exprime en d'autres termes.
Pourquoi t'es dans le noir ?
Chut ! Je suis sur le Darknet.
C'est quoi ?
C'est un Internet parallèle où tout est permis.
C'est genre la Seine-Saint-Denis du net ?
Ouais. Par exemple, sur Le Bon Coin, au lieu d'acheter une table en bois à Besançon, tu peux acheter du LSD à Caracas.
Un extrait de Bloqué par Gringe et Orelsan. Voilà ces employés de chez Google qui ont, ils sont 500 pour l'instant, à avoir écrit une lettre publique en disant « Nous sommes opposés aux technologies qui aident les puissants à opprimer les plus vulnérables ». Et il y a une autre partie des cadres de Google qui disent oh, « Bon, ben, nous, on voudrait quand même lancer ce moteur de recherche appelé Dragonfly en Chine ». Il y a une géopolitique aussi de Google. Alors, François Saltiel, ce sera une décision lourde de conséquences. Il y a un choix que vous allez scruter.
Oui, effectivement, là, c'est un vrai sujet parce que on le sait bien, ces GAFA doivent conquérir de plus en plus d'utilisateurs et la Chine est un énorme marché. Alors jusque-là, ils avaient quand même une position un peu de favoriser la liberté qui est à la base hein, de l'utopie d'Internet. A priori, c'est quand même pour rendre l'information accessible à tout le monde et tout le temps. Et on le voit bien justement dans ce livre à travers ces histoires, ces facteurs de liberté quand même Internet. Mais en Chine, bah, faut bien se plier aux règles. Et là, si Google eh bien, se dit « Ok, pas de problème, moi je vais faire un moteur de recherche adapté où on ne pourra pas, par exemple, chercher des informations qui critiquent le dictateur,
si vous tapez Tiananmen, ça explose.
Ça explose, voilà. Exactement. Ça pourrait créer aussi une jurisprudence dans plein d'autres pays. Hein. Vous n'avez pas remarqué hein, que l'autoritarisme commence un petit peu à bourgeonner partout dans le monde. Et donc, cette jurisprudence-là pourrait faire très, très mal. Et ouais. Dernière petite chose par rapport justement à la Chine. Récemment, il y a un éditeur de jeux vidéo, Ubisoft. Hein, c'est un grand, grand éditeur de jeux vidéo qui, jusque-là, faisait des versions un peu séparées pour les marchés. Vous savez, dans les jeux vidéo, parfois, il y a des images un peu de sexe, trop de violence, etc. Donc, il y avait des versions qui étaient vraiment réservées à la Chine où on enlevait les femmes dénudées et pour le reste du monde, comme chez nous en Europe, on pouvait jouer d'une certaine liberté. Eh bien, dans cette dernière version de ce jeu vidéo, eh bien, ils sont pliés à la censure chinoise, et c'est surtout la censure chinoise qui va finalement dominer le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul, une seule édition de ce jeu vidéo, sans les images sexy, mais qu'on aura nous aussi en Europe quelque part. On est nous aussi pliés à la censure chinoise. Et là, c'est aussi un moment charnière et un cas d'école par rapport à ces Chinois qui commencent à prendre une part très importante dans la gestion de notre liberté sur les réseaux.
Mais pourquoi certains pays ne le font pas du coup? Parce qu'il y a pas mal de hashtags qui viennent de dictatures aussi. Le Women to Drive, c'est l'Arabie Saoudite.
Exact.
Et donc, ils ne pouvaient plus contrôler du coup les gens.
Ouais, ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, donc okay, Mohamed Ben Salman qui a donné le permis de conduire aux femmes très récemment, sauf que s'il l'a fait, bon, il y a une forme d'opportunisme politique certain, mais c'est aussi le fruit de 20 ans de mobilisation de femmes saoudiennes qui, au péril de leur vie, ont pris des risques pour qu'aujourd'hui, cet État se mette à plier et à donner l'autorisation du permis de conduire, et notamment par les réseaux sociaux. Et il y a eu ce hashtag qui s'appelle Women to Drive, où c'est une saoudienne courageuse qui a pris le volant et qui a appelé toutes les autres femmes à faire de même, et aller dans les rues de Riyad, les mains sur le volant, en mettant le contact et en se disant si on est 5, on va se faire arrêter, si on est 10 aussi, si on est 300, peut-être pas. Et c'était une manière aussi de mobiliser l'opinion publique. Et c'est certain que si aujourd'hui, en 2018, les Saoudiennes ont enfin le droit de conduire, c'est grâce à ces féministes qui sont battues pendant plusieurs décennies, dont certaines sont d'ailleurs toujours incarcérées aujourd'hui, et ça, on n'en parle pas trop.
Et voilà, c'est l'une des histoires, le vendeur de thé qui changera le monde avec un hashtag. Et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies. C'est paru chez Flammarion, c'est François Saltiel.
Vous dites bien.
Qui est en notre compagnie. Et aussi Rukyata Ouedraogo. Coucou.
Coucou. Alors, on dit chez moi que la parole est comme l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la ramasser.
Autrefois dans mon village, quand on voulait conclure une affaire, on donnait juste sa parole et cela suffisait. On se croyait sur le champ parce que la parole était sacrée. Celui qui ne respectait pas sa propre parole n'était pas digne de respect. C'était une question d'honneur. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, à qui donner sa parole? Personne n'en veut. L'autre jour, j'en parlais à mon jeune neveu Ousseini, fraîchement diplômé de la business school de Ouagadougou. Mais tanti, c'est logique, regarde. On dit que celui qu'on peut croire sur parole est un homme qui n'a plus de parole. Donc, si cet homme donne sa parole, par définition, après l'avoir donnée, il n'en a plus. Alors Ousseini, si je te comprends bien, un homme de parole ne peut pas donner sa parole, sinon il n'est plus un homme de parole. Eh bien oui, c'est ça, tanti. Et c'est pour ça que dans le nouveau monde, il n'y a plus de place pour la parole des anciens. Ce qui marche aujourd'hui, c'est les fake news. C'est la post-vérité. Il faut être pragmatique et vivre avec son temps, tanti. Bah ouais, tu vois, moi ça me rend triste tout ça. Hein. Parce que quand il n'y a plus de parole, il n'y a plus de confiance. La preuve, quand tard le soir je me rends compte qu'il me manque du sel ou du poivre pour épicer ma sauce, je cours voir mon épicier et il m'arrive parfois de ne pas avoir assez de monnaie sur moi. Et comme mon épicier ne prend jamais la carte bleue et veut toujours être payé en liquide pour des raisons fiscales qui m'échappent, je suis obligée de lui dire à chaque fois « Bon Abdoulaye, je te donne ma parole que demain matin, avant le chant du coq, avant le braiement de l'âne, avant le lever du soleil, tu auras ton argent en espèces sonnantes et trébuchantes. » Et à chaque fois, il me répond « Ma sœur, paye-moi d'abord ce que tu me dois et on verra après. » Mais mon frère, j'entends bien ton argument qui n'est pas dénoué d'un certain bon sens. Je n'en disconviens pas. Néanmoins, et il n'y a pas de néanmoins. Les bons comptes font les bons clients. Un point, c'est tout. Évidemment, je contre-argumente et tout cela finit en bavardage sans fin. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de marchands où la parole se dégrade en bavardage, pour ne pas dire en marchandage. La parole est humiliée, souillée, piétinée, voire profanée, Alex. Pourtant, la parole est importante parce qu'elle est rapport, elle est en rapport avec le souffle vital. C'est pour ça que les griots, les gardiens de la parole, ont une vraie responsabilité. Chez moi, au village, le chef ne parle pas. Lui et le griot connaissent la puissance de la parole et ils en disent. Ils ne disent rien au hasard. Ils savent qu'une parole, ce n'est pas que du son porté par du souffle. Une parole, c'est d'abord une action. Une parole est comme un boomerang. Elle va à la rencontre de celui à qui elle est destinée, puis elle revient toujours à sa source sous forme d'écho. Et si tu n'es pas assez habile en lançant une parole, tu peux être assommé par tes propres mots. Les chefs le savent, c'est pour ça qu'ils laissent parler les griots. Mais ici, nos chefs présidents veulent toujours parler, comme si leurs paroles ne les engageaient pas et que nous, on ne demandait qu'à les croire. Quand Macron dit qu'il entend le problème des Français et qu'il lutte pour le réchauffement du climat entre les gilets jaunes et lui, sait-il qu'il peut être assommé par ses propres mots? Hein? Ça, il le sait pas, le Macron. Voilà. A-t-il oublié son bon ami François Hollande qui a réussi à se mettre KO debout tout seul avant même le début du combat des élections présidentielles? Un jour, mon oncle m'a dit, « Ma fille, quand tu sais quelle calamité toute parole prononcée peut engendrer, tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Car comme on dit ici au village, il est moins dangereux d'avoir une crampe à la langue qu'une connerie au bord des lèvres. »
Allez, François Saltiel est en notre compagnie. Dans les restaurants, le bouche à oreille qui faisait la réputation des bonnes tables a été remplacé par Instagram et décuplé dans des proportions si énormes qu'un établissement de Milan propose de vous offrir leur pas si vous avez beaucoup, beaucoup de followers. Alors, en plus, forcément, on est hyper bien accueillis. Hein, quand on a un grand pouvoir de publicité, on est accueillis particulièrement.
Permettez.
Vous n'avez pas terminé votre dîner?
J'ai plus faim, c'était très bon.
Il faut finir, tout finir.
Mais ça va, comment ça m'a passé?
Non.
Comment non?
Vous allez me suivre à la cuisine.
Mais
hein?
Comment vous êtes allé me toucher? Venez.
Mangez.
Je ne mangerai pas. Mais si.
Mangez. Fufu dans Les Loups la cuisse, le film de Claude Zidi. Alors j'imagine, François Saltiel, que ce sujet ne vous a pas échappé, tout ce qui est ces sujets sur Internet qui nous paraissent parfois quand même assez dingues, vous les traitez notamment dans 28 minutes. Donc les followers, c'est devenu presque une monnaie quand on est très très, on va dire, influent sur Instagram. Mm. On peut se faire payer le repas moyennant de faire une photo.
On peut se faire payer le repas, on peut se faire offrir des vêtements, on fait du placement de produits, etc. Effectivement, là, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Alors, c'est pas le meilleur des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, pour le coup, là, on défend pas des grandes causes, mais c'est ça aussi, des réseaux sociaux, et ça existe. Alors, effectivement, c'est assez fou, hein, ce que vous évoquiez à l'instant. C'est-à-dire, en fonction du millier de followers qu'on a, on a un plat qui correspond. Je crois que c'est ça. Donc, oui, quand on en a 100 000, on a le menu gratuit, mais 10 000, on a qu'un sushi, 3000, on a 200, on en a qu'un maquis. Bon,
mais voilà. Il faut vraiment le poster.
C'est ça. Ah oui, c'est bien sûr. La contrepartie, c'est qu'il faut
c'est du public
poster,
reportage.
Qu'il faut poster la photo.
Mais si on est honnête, nous les journalistes, on reçoit beaucoup les livres, on est invité au spectacle parce qu'on va en parler.
Parce qu'on va en parler.
Ouais. Ouais, c'est le pouvoir de prescription. Effectivement.
Est-ce que donc on n'est pas dans le même?
Non, parce qu'on a décidé d'en parler.
Ouais.
Ah non, on les reçoit parfois sans avoir décidé d'en parler.
Oui, mais on n'en parle pas si on n'a pas décidé.
Oui, ah, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec vous.
Ah oui, bien sûr.
Mais non, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, en même temps, ça offre aussi une certaine liberté, parce que pour l'instant, c'était que les journalistes qui avaient ce pouvoir de prescription de prendre
c'est
la parole.
Ça, je veux dire, est-ce que c'est si mal, en tout cas, pour les blogueurs?
Là, c'est intéressant, par chacun exemple, peut créer sa chaîne, son média, donc c'est une forme de liberté. On aime ou on n'aime pas.
Typiquement, François Saltiel, on vous a pas invité pour avoir votre livre gratos.
Non,
on vous a invité parce
qu'il coûte que 14,95€.
Vous disiez, François Saltiel, c'est vrai que sur Instagram, c'est une autre. Il y a comme Twitter, c'est pas pareil qu'Instagram. Par exemple, sur Twitter, il y a beaucoup d'indignation, de hashtags qui changent le monde, etc. Quand vous l'expliquez dans votre ouvrage, et Instagram, il paraît avoir un côté un peu plus futile de je montre les vêtements que j'ai reçus, je suis en photo avec, etc.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, un côté plus bienveillant, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont chacun leur identité. Facebook, maintenant, quand vous voyez que votre grand-mère est sur Facebook quand vous êtes un jeune, ça devient un réseau social qui est plus très intéressant.
Ouais, pour draguer, c'est pas mal. Du coup, si les grands-mères arrivent. Moi, je suis...
Hashtag cougar, hashtag je lance toujours cet appel. Mais donc, du coup, Facebook, on peut dire que c'est un peu une sorte de carte d'identité. C'est-à-dire qu'il faut y être, on peut pas ne pas y être, mais on va pas forcément le nourrir, le cultiver, mais on ne peut pas ne pas y être. Twitter, c'est vraiment le média, vous le voyez tous les jours, il y a des polémiques, des buzz, du scandale, etc. De la réaction, c'est vraiment le média épidermique, voilà, du clash. Et Instagram, déjà, c'est la photo, donc c'est le poids des photos, sans toujours le poids des mots et le choc de l'image, sans forcément le poids des mots. Et là, du coup, sur Instagram, ça fait un peu plus bienveillant, mais aussi beaucoup plus superficiel dans le lifestyle. On va mettre ce magnifique paysage, ce magnifique plat qu'on a consommé hier. Et d'ailleurs, on se rend compte que souvent, les Instagrammeurs font les mêmes photos dans les mêmes endroits. Et je vous invite à aller voir un compte Instagram qui s'appelle Insta Repeat et qui s'amuse à recenser comme ça toutes les mêmes photos prises par les touristes dans le monde entier. Vous allez voir, c'est une démonstration qui est assez fascinante.
Il y a 6 milliards et demi de Tour Eiffel déjà. Et comment est-ce que ces réseaux ont chacun finalement leur identité? C'est l'usage qu'on en fait. Il y a un conditionnement aussi que sur Instagram c'est plus bienveillant et qu'il y a plus de pubs, que sur Twitter c'est un peu plus, ça peut être plus hargneux ou fédérer les gens pour des manifs, etc.
Bah, effectivement, c'est quand même un peu l'usage qu'on en fait. Parce que quand on réfléchit, Facebook, au tout départ, c'était quoi? C'était un truc pour retrouver ses copains d'un vent. Voilà, c'est ça. Et puis, on mettait des photos de chats un peu marrants. Et puis, c'était un truc de divertissement. Puis, très vite, on a vu que l'outil était tellement puissant que des entreprises politiques, que des entreprises tout court s'en sont servies. On sait très bien qu'aujourd'hui, Facebook peut être un instrument au service d'un État pour faire passer de l'information et de la propagande politique. Donc là, on a vraiment la démonstration d'un truc qui était une sorte de copain d'avant, pas très dangereux, un véritable outil de propagande politique, et l'affaire Cambridge Analytica en est l'illustration. Donc c'est quand même ce qu'on en fait, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a le pire et donc parfois le meilleur.
Voilà, donc maintenant, si vous voulez, donc ça se passe à Milan, mais ça va s'étendre.
Ah, je pense que ça va s'étendre.
J'ai des followers, alors pop, envoie ici la blanquette de volaille. Quoi. C'est ça. Eh ben, dis donc. Allez, vous êtes sur France Inter, par Jupiter. François Saltiel est avec nous et on va aborder ce dernier sujet, car nous sommes vendredi, on peut parler de la fête. Pas que de la fête du samedi soir, la fête c'est aussi le carnaval ou les fêtes religieuses. D'un point de vue philosophique, car c'est la une de Philosophie Magazine, la fête a un rôle social, dont rendre supportable la relation dominant-dominée. Ça se voit notamment dans les carnavals où on brûle les figurines, etc. Et c'est pourquoi les fêtes d'entreprise sont forcément ratées, parce qu'il est difficile de faire abstraction des rapports hiérarchiques. Allez, c'est bientôt le week-end. Je vous donne un petit aperçu de ma fête de ce week-end.
Alors si vous le voulez bien, maintenant, nous allons danser. Alors soyez gentils, mesdames au salon.
C'est marrant, il me rappelle ma mère.
Mademoiselle, je me présente, Général Cédille.
Et moi, Rocky la Braise.
Amusant. Me ferez-vous la grâce de m'accorder cette danse? La valse me donne des ailes.
Non, moi ça me donne le tournis.
Je vais m'amuser, c'est un truc de foufou. C'est un extrait des Pissenlits par La Racine. Alors, est-ce que François Saltiel, la fête, c'est quelque chose qui est présent sur les réseaux sociaux, où justement c'est un moment de déconnexion, ou alors pas du tout en fait, les gens ont envie aussi de partager la fête.
Sur les réseaux sociaux, le principe même des réseaux, c'est de partager tout le temps toute sa vie. Vous savez, il y a même un truc assez terrible pour les jeunes générations qu'on n'est plus malheureusement, qui ont l'impression que s'ils publient pas une photo, le moment n'a pas existé. Hein, si on publie pas, c'est que ça n'a pas eu lieu puisque je peux pas le dire aux autres. Et comme j'ai tellement donné l'habitude aux gens de raconter tout le temps ma vie, si je raconte rien, les gens vont penser que je fais rien. Or, j'ai toujours l'impression de vouloir faire quelque chose. Donc la fête, généralement, oui, elle est présente sur les réseaux sociaux, mais de manière toujours un peu magnifiée, puisqu'on va faire une photo, on va mettre un peu de filtre. Vous savez, les fêtes un peu pourries où il y a que 10 personnes dans un grand open space, il suffit de faire un plan un peu serré et dire folle ambiance, regarde, je m'éclate. Ah, oui. Alors qu'en fait, il y a que ton chien qui est juste derrière et que tu es en train de mourir de solitude.
Pour aussi faire la promo de la
com du modem. Ça.
Oui, c'est ça.
Et la fête à Lausanne, c'est comment la fête à Lausanne?
Ouais, alors c'est vraiment vachement bien.
C'est énorme. Ouais.
Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Hein.
Ah oui, oui.
On est beaucoup plus fou qu'on en a l'air hein, là, en Suisse romande.
Ouais. Ah d'accord, pardon.
Mais moi, je me pose une question à propos justement des réseaux sociaux. Si je peux juste poser cette question sur, par exemple, en Suisse, le Twitter, il n'y a que les journalistes et les politiciens. Quoi. Est-ce qu'il y a aussi notre culture à nous, un lien avec la consommation des réseaux sociaux?
C'est-à-dire qu'en Suisse, le grand public ne va pas forcément aller sur Twitter. Mais j'ai vu qu'en Suisse, justement, le grand public allait sur Instagram, parce qu'il y a un nouveau service qui existe en Suisse. C'est un majordome qui publie pour vous, justement, sur Instagram. C'est-à-dire que vous avez envie de vivre justement un moment de déconnexion, mais donner l'impression que vous faites des choses, vous confiez votre compte Instagram à quelqu'un qui va publier pour vous. Et voilà, ça c'est en Suisse.
Suisse, c'est malin.
Dans un monde hyper connecté, on peut aussi être hyper connecté avec l'au-delà, avec les morts.
Et on a une spécialiste, la Suissesse de l'émission, Christine Gonzalez. Aujourd'hui, elle parle à Maria Callas, et puis il y a de la visite.
Son hologramme est en pleine tournée avec orchestre symphonique et ça marche très très bien. Maria Callas, bonsoir, on vous dérange pas?
Mais non.
Ça fait plusieurs semaines que votre hologramme tourne, les États-Unis, l'Amérique du Sud, puis l'Europe. Comment réagit le public?
On a aimé, mais on a été un peu bouleversés, un peu choqués, disons.
Ouais, ça peut choquer. Mais bon, moi, vous savez, j'ai rien contre les retours posthumes.
Hein. Oui, sûrement, ça.
Mais peut-être que ça choque certains, parce qu'on vous a pas vraiment oublié.
On n'a pas oublié, mais on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas comme la Callas. C'est pas la façon de chanter comme le nôtre, évidemment, c'est un
hologramme.
Tout à fait.
Voilà, ça doit quand même être troublant, ce vrai-faux.
Il faut persuader le public que c'est vrai, ou au moins donner l'illusion d'une vérité.
Le spectacle posthume, c'est un sacré filon pour l'industrie musicale, jusqu'à 100 euros la place, c'est un peu abusé là. Hein.
Il faut pas avoir peur de dépenser.
Sur Twitter, ça réagit, par exemple, quelqu'un a écrit, je le cite, « Accepter de payer autant pour un culte morbide, ça s'appelle se faire baiser ».
Vous savez, nous artistes, nous devons nous baiser.
Pardon?
Je dis qu'il faut que nous nous pésions très bien chaque jour.
Ah. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Maria Callas.
Quand on a beaucoup de cervelle, comme moi, que j'en ai trop, et alors je pèse trop les choses.
Voilà, peser.
Tout à fait. Voilà. Comprenez-moi, cherchez au moins de me comprendre avec mon mauvais français.
Non, vous parlez très très bien français, vous êtes très doué, puis pas qu'en français. Hein. Moi, ce que évidemment j'admire le plus chez vous, c'est votre voix. J'adorerais tellement chanter comme vous.
S'il y a d'humilité dans le travail, tout à fait possible.
Possible? Vous seriez d'accord de m'apprendre?
Oui.
Oh, bah génial!
Mais c'est à toi.
Oui.
Et comme ça, en ouvrant la bouche et en faisant un geste.
Oui.
Bonjour et que Dieu vous bénisse. Je les aime.
C'est Mireille Mathieu. Mais Mireille Mathieu.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez bien que je suis en pleine masterclass avec la Callas.
Elle est très émouvante. Il y a des notes extraordinaires.
Oui, mais Mireille Mathieu, vous êtes vivante.
Oui, fière de l'être.
Oui, d'accord, mais dans ma chronique, il n'y a que des morts, les vivants, moi j'en veux pas. Hein.
Il n'y a pas de raison, non?
Je suis désolée, Maria Callas, pour cette irruption.
Je suis ici. Quand vous aurez besoin, venez me chercher.
Non,
c'est tout.
Non, mais restez, Mireille Mathieu, s'il vous plaît.
Jézébel. Jézabel, c'était toi.
Mireille Mathieu, vous étiez il y a deux semaines chez Augustin Trapenard. C'est bon, pas besoin de revenir comme ça sur Inter.
Alors je vais me lever.
Voilà.
Donc je vais interpréter de mon CD et mon double vinyle. Non, mes classiques. Non. Dédié à ma petite maman.
Non.
Lâche que pianga.
Voilà.
Mia cruda sorte, e che sospiri.
Voilà, merci. voilà, merci Mireille. Maria Callas.
Moi, je vous remercie vraiment.
Écoutez, madame, je voudrais tellement travailler avec vous.
Toi, tu dois continuer à faire ce que tu dois faire.
Oui, si Dieu le veut, oui.
C'est à toi de dire, ben ça c'est le destin, je vais le prendre par les cheveux.
Je ne suis pas sûre qu'elle prenne son destin par les cheveux, Mireille Mathieu, hein, si je puis me permettre. Et à propos de destin, Maria Callas, j'en ai un dans le champ, franchement.
Non. Je suis très fataliste.
D'accord, ok.
Je veux remercier tout ce public. Ils m'ont adoré, ils m'ont compris, généralement, ils m'ont aimé. Alors de ça aussi, je suis très reconnaissante. J'ai que de la reconnaissance pour le monde. C'est tout.
Merci, Maria Callas.
J'aime pas la beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées, qui ne sont pas du tout funèbres.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité, et tous les goûts que tu professes. Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
François et Atlas Mountains, les promesses d'un visage. Nous sommes vendredi et comme il nous manque un Meurice, on en a trouvé une autre.
Eh ben ouais, ben moi je la préfère, oui.
Catherine Meurice.
Allez, on l'écoute.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Catherine Meurice, votre album s'appelle Les Grands Espaces. C'est paru chez Dargaud. Vous revenez sur votre enfance, c'est dit un peu prosaïquement là, mais on va le dire mieux pendant l'émission tout à l'heure. Vos parents vous ont fait grandir à la campagne, vous nous racontez cette enfance à la campagne. Ils vous ont dit c'est ta chance si tu grandis à la campagne. Est-ce que vous en aviez conscience enfant ou ça vous est revenu assez récemment, d'où cette bande dessinée et le fait de vous y replonger ?
Ça m'est revenu récemment, ça m'est revenu quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et c'est notamment une phrase que ma mère a prononcée il y a pas si longtemps et je tenais à ce qu'elle soit au début de mon bouquin. Et pourquoi le mot chance? Parce que je fais référence à une bande dessinée qui est sortie deux ans avant, qui s'appelle La Légèreté, qui parlait de ma reconstruction à travers la littérature et les arts après l'attentat contre Charlie. Et après l'attentat, on m'avait souvent dit, mais t'as de la chance, t'es arrivé en retard à la conférence de rédaction. Et je répondais, non, c'est pas de la chance, c'était vraiment le hasard. Donc la chance a déserté un peu mon existence pendant toute l'année 2015. Je savais plus ce que valait ce mot. Mmh. Et je me suis dit, tiens, voilà, le prochain livre, je vais reprendre ce mot, je vais voir ce qu'il recouvre et je me suis dirigée vers mon enfance. Voilà.
Ça se passe dans les années 80 quand vos parents vous emmènent à la campagne et retapent entièrement une maison. On assiste à tout l'aménagement, la découverte de la campagne pour vous. Là, vous avez 38 ans, Catherine. Vous êtes à l'âge où vos parents vous emmenaient à la campagne.
Oui, c'est vrai.
C'est votre manière de transmettre à votre tour tout ce qu'ils vous ont transmis, parce que quand on lit votre bande dessinée, on apprend mille choses, on découvre mille choses en même temps que la petite Catherine enfant qui découvre qu'est-ce qu'on plante où, comment ça s'appelle, pourquoi.
Ben c'est d'abord que, pour que moi j'apprenne, c'est d'abord très égoïste, un bouquin, je crois, on pense à soi. Ah oui. C'est pour ne pas oublier ce que j'ai entendu dans mon enfance et pour peut-être rendre hommage aussi ou vraiment montrer ma gratitude aux gens qui m'ont apporté des belles choses, que ce soit mes parents comme les écrivains, les artistes, etc. Donc souvent, il y a des... Oui, peut-être qu'on apprend des choses en bande dessinée, mais c'est parce que j'ai, moi, d'abord, le désir d'apprendre et pour être toujours en éveil et pas devenir trop débile, si possible. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément l'intention de faire des livres didactiques, c'est pas du tout ça, je crois, mais
non, y a toujours des petites choses... Non, c'est pas l'idée de didactique, voilà, mais c'est le sentiment qu'on a en vous lisant. On se disait avec Juliette, on est tellement bien avec vous, on n'a pas envie de sortir de cette bande dessinée. Il y a vos parents qui vous transmettent des choses, vous le racontez, et on a l'impression que à travers cette bande dessinée, ils nous transmettent à nous, le lecteur.
Eh bien, c'est très beau, merci, tant mieux. Oui, je crois que j'avais moi-même cette envie de revenir dans cette bulle de l'enfance et ce jardin, parce que j'ai grandi dans un chantier, mais aussi un jardin, enfin le chantier est devenu jardin, est devenu maison. Et le jardin, c'est cet espace clos. À l'intérieur, on a, je l'écris dans la bande dessinée, il y a le spirituel, il y a tout ce qui pousse, tout ce qui va être précieux. Et puis dehors, c'est l'ailleurs, c'est autre chose, ça peut être le chaos. Et j'avais besoin de retrouver cette bulle de protection. Et je crois que ça aussi, c'est fait suite à ce qui s'est passé il y a 3 ans. J'avais besoin d'un retour aux sources absolument, d'aller voir les racines et de me pencher sur ce qui me faisait tenir debout aujourd'hui.
Alors, on est à la campagne, dans les grands espaces. Cette bande dessinée s'appelle Les Grands Espaces. Bon, si je puis me permettre, la grandeur de la nature, les grands espaces, tout ça, d'accord, mais enfin, vous l'enfermez dans des petites caisses, c'est de la BD. Est-ce que la bande dessinée, c'est quand même le meilleur moyen pour relater les grands espaces?
Mais si vous regardez bien, je ne trace pas de traits à la règle, mes cases sont ouvertes, c'est la couleur qui ferme les cases. Mais vous avez raison, mais c'est vrai que non, mais il est question de cadre. Mais non, mais c'est une question très pertinente, Hippolyte Girardot, mais bien sûr.
Et je vais répondre. Apparemment, le second degré n'est pas passé chez tout le monde.
Il y a quand même des grandes cases.
Évidemment, bien sûr, des grandes cases. Et il est question de cadre aussi. Non, mais c'est très juste. Et je parlais de jardin, c'est un cadre. La bande dessinée, c'est un cadre. L'enfant, c'est un cadre. Tout ça. Et
il y a deux pages.
Je cherche à péter la clôture. Je passe par-dessus la clôture et je deviens dessinatrice.
Et notamment les personnages, pour rendre ces grands espaces dans finalement ce qui est quand même limité, comme vous disiez, les personnages, vous êtes toute petite.
Oui, un peu.
Il y a les techniques de.
Je suis une grande admiratrice de Sampé, qui fait toujours des petits personnages paumés dans les grands espaces. Alors, ça peut être la mer, la montagne et souvent la ville. Et j'avais. Les grands espaces, c'est l'imagination, autant que les prés, la forêt, les bois. Enfin, c'est ça que je cherchais à dire aussi. C'est comment on agrandit son espace mental en rêvant. Je crois que c'est un album sur la rêverie, sur l'importance de rêver.
On va y revenir tout à l'heure avec Juliette Arnaud qui est en notre compagnie. Catherine Meurice, ça s'appelle Les Grands Espaces, paru chez Dargaud. Alors un an après MeToo, si on pousse la logique des mouvements citoyens jusqu'au bout, est-ce qu'un parti féministe pourrait émerger?
Je me suis aperçue que mes croyances n'étaient pas du tout solides, en fait, que c'était même très, très, très fragile, que j'étais très influençable, en fait. Parce qu'avant, ça m'énervait beaucoup, le féminisme, j'étais même un peu anti. Et puis j'ai lu 2 bouquins, puis maintenant je suis à fond. Parce que je me dis qu'il ne faut pas que je lise Mein Kampf.
C'est Blanche Gardin. Et c'est un article paru sur slate.fr qui pose la question, tiens, est-ce qu'on n'en viendrait pas à un parti féministe pour porter toutes ces idées et ces combats? Est-ce que ça, comme ça, à brûle pour point, Catherine Meurice, ça vous semblerait une bonne idée d'avoir un parti féministe? Pour accélérer les choses. Et...
Parti féministe, deux mots qui ils sont explosifs. Non, mais c'est marrant parce qu'on parlait de Hulot tout à l'heure qui s'est barré du parti, enfin, du gouvernement et qui croit plus aux associations,
à l'action citoyenne.
Et puis là, on aurait le mouvement inverse où on a l'impression que les actions citoyennes ne suffisent pas, il faudrait créer un parti. Ça m'interroge. Ce serait beau de voir les féministes s'entendre un peu, mais enfin, je crois que c'est une utopie, malheureusement. Si elles se foutent sur la gueule comme les écolos, c'est dommage.
C'est exactement le propos du papier.
Je ne compare pas les femmes aux plantes vertes. Hein,
non.
Mais c'est vrai que féministes... mais pourquoi pas, enfin c'est tout est,
c'est une question
bon
à se poser.
Ouais.
En tout cas, c'est 51,6% de la population française, les femmes. Paf, on gagne l'élection comme ça de façon mécanique. Je vous lance le, donc si on crée un parti et que toutes les femmes vont voter. Ouais.
Et pourquoi nous, les hommes, on pourrait pas voter pour un parti féministe?
Ah bah si, vous pourriez.
Enfin, mais ça nous ferait des voix en plus.
Merci de m'y autoriser.
Mais j'espère qu'il y aura des hommes. Il faut qu'il y ait absolument des hommes.
Ouais. Un parti féministe, vous verriez qui à sa tête? Si vous me dites Marlène Schiappa,
Michel Sardou, fin des années 80, ça me semble évident.
Attendez, Ségolène. Non, pas du tout.
Non. Elle est dans la BD, Ségolène.
Oh là là. Des pentes, non, je crois qu'elle s'en fout. Bretéché, elle s'en fout.
Un duo Bretéché-Despentes, ça.
Ça
fait un joli.
Mais Bretéché, ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est féministe sans être militante. Et ses livres sont militants sans qu'elle fasse gaffe, en fait. Mmh. Et ça, c'est génial. Elle a le féminisme en elle, et elle le revendique pas. C'est très beau. Je suis pas contre les militantes, bien sûr, parce que je crois que tout ce qui peut nous aider, nous, les femmes, à avancer, c'est bon à prendre. Mais voilà.
Et vous venez de citer deux artistes. Ouais. Et donc, ça veut dire que le féminisme en tant qu'idéologie n'est pas super bien représenté par les politiques, vraisemblablement.
Peut-être
c'est ça qui manque.
Il y en a eu.
Mais aujourd'hui,
vous auriez dit Simone Veil.
Oui, voilà, j'allais dire Simone Veil. Ouais. Je vous déprime là, on dirait.
Pas du tout, mais non. Juliette, vous allez parler avec beaucoup de délicatesse.
Je vais essayer.
C'est notre dernière chance.
C'est la dernière chance.
On mise tout sur vous pour rendre hommage à ce magnifique album.
Alors, pour tous ceux qui ont vu Out of Africa et qui se souviennent, tremblotant de ça, j'avais une ferme en Afrique, au pied des collines du Ngong. Je vous propose un autre voyage, sans musique de John Berry, mais on s'en fout parce qu'il n'a pas été très gentil avec Jane Birkin. Et puis de toute façon, c'est un roman graphique, alors la musique, ce sera PPM, hein, par vos propres moyens. Dès les premières pages, j'ai grandi à la campagne, écrivez-vous Catherine Meurice. Ta gueule, John Barry. Mais vous, c'est la vraie, hein. La vraie, 200 habitants dans le village le plus proche, vos parents décident que la campagne sera leur chance à leur fille. Et c'est très exactement ça, l'éducation. C'est proposer une voie, une nouvelle voie, en l'occurrence. Un de ces moments de vie où le préfixe « re » devient la première pierre de la nouvelle église païenne. Remonter des murs, replanter des haies. Parce que, à cause des tracteurs toujours plus larges, les autres les avaient pétés. Refaire vivre des arbres avec les boutures. Réviser la constitution. Il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes. Non, ça n'est pas de Mao Zedong ou d'un autre gentil démocrate, c'est d'Éric Rohmer. Et c'est votre papa qui le cite. Comme quoi, Rohmer, il est rigolo. Et les enfants, à la campagne, eh ben, les enfants, ils kiffent. Les deux sœurs, elles s'adaptent impeccable. C'est ça qu'il y a de bien avec les mômes. Ils ont une capacité d'adaptation immense. Et puis là, carrément, c'est le paradis qui commence. Charles l'avait dit, Baudelaire, pas de Gaulle, le vert paradis des amours enfantines. C'est adaptable, les enfants, et franchement, c'est rigolo. En tout cas, Catherine Meurice et sa grande sœur, c'est démarrante. Par exemple de dialogue entre elles. C'est quoi la nostalgie? C'est un truc de vieux. Sa sœur, viens, on joue à Barbie dans la fiente. Et mon nouveau must, viens voir, j'ai pas de la boule. Elles font tous les jeux de la campagne, qui clairement sont les meilleurs. Un peu de jeux interdits, enterrer les petites bêtes mortes, s'intéresser à la mort, et donc au caca, et en faire un musée. Un peu de petites fadettes, oui. Le livre commence avec une citation de George Sand, et donc d'amour des autres, tous les autres. Et là, je vais citer un peu de petites fadettes. Moi, je n'écrase pas la pauvre créature du bon Dieu. Et si la chenille tombe à l'eau, je lui tends une feuille pour qu'elle se sauve. Et à cause de cela, on dit que je suis sorcière. Parce que je n'aime pas à faire souffrir une grenouille, à arracher les pattes d'une guêpe et à clouer une chauve-souris vivante sur une branche. Pauvre bête que je lui dis. Si on doit tuer tout ce qui est vilain, je n'aurai pas plus que toi le droit de vivre. Pendant que Catherine rêvasse et devient peintre et caricaturiste, grâce à Ségolène Royal, la grande sœur, elle, bouquine. Et c'est pas de la moule ce qu'elle bouquine, c'est Proust. Tranquille. Et mon cher Zola, avec la faute de l'abbé Mouret. Mais quelle joie de voir apparaître ce titre des Rougon-Macquart, peu connu mais si beau, si intrigant, puisqu'il contient de la magie. Alors que Zola, en général, c'est plus Marx que J.K. Rowling. Oui, de la magie. Parce que dans la faute de l'abbé Mouret, il y a le plus beau jardin de l'histoire des livres, le Paradou. Alors oui, techniquement, il raconte nimp, Zola. Nicolas le jardinier, il en boufferait son chapeau, tout poussant en même temps, sans respecter la loi des saisons. Mais c'est un jardin magique, la preuve, l'abbé Mouret couche avec Albine, alors que c'est interdit. Les curés qui couchent avec les gens.
La magie dans les grands espaces, elle explose page 68 dans une grande planche sur deux pages. Il y a une petite fille qui est toute petite puisqu'elle est adossée au tronc d'un arbre et elle en admire un autre, sa robe rose perdue dans le grand vert, une caricature de petite fille dans un tableau de peintre. On sent le souffle de Corot, de Poussin, de Fragonard. Alors c'est la magie d'assister à la naissance d'une artiste, magie de se dire qu'on a trouvé la BD dans laquelle on a envie de vivre. Merci, bisous, merci.
Oh là là, ah, merci
c'est Juliette. C'est mieux déjà.
Gros gros bisous. Non, merci,
c'est la plus belle formule, Juliette. T'as réussi à mettre des mots merci. Sur ce qu'on ressent en vous lisant. Ah, on a envie de vivre dedans.
Ah mais, c'est du fond du cœur.
Ouais. En tout cas, ça s'appelle Les grands espaces. C'est paru chez Dargaud. C'est Catherine Meurice. Et vous avez compris qu'on était tombés en amour et qu'on vous le recommande chaudement. Alors on est dans le nouveau monde, les gars et les gâtes. Faut innover, hein. Mais alors en BD, ce serait quoi les dernières innovations? Est-ce que ce serait par exemple la BD augmentée? Qu'est-ce que c'est qu'innover en BD?
Explorateur, exploratrice de la troisième dimension.
Alors est-ce que c'est ça, comme nous chante M, Catherine Meurice, d'une manière assez globale, est-ce que la bande dessinée, j'imagine, ça, elle innove? Et on a vu donc dans l'émission de la Radio Suisse, la RTS.
Excellente émission.
Ouais, Vertigo.
Vertigo.
Co-anime Christine Gonzalez. Une bande dessinée qui a été présentée dans votre émission, Christine, s'appelle Matière Noire de Sylvain Monnet, qui parle de bande dessinée augmentée, c'est-à-dire de découper dans le papier, d'avoir une application et...
Et grâce à cette application, on a accès à d'autres dimensions de ce qui a été dessiné. C'est-à-dire que tout d'un coup, un oiseau se met à voler à travers votre application.
Vous vous tenez au courant de ces innovations-là, vous, Catherine Meurice?
Oui, bien sûr. Mon éditrice ici présente, qui me tient par une chaîne.
Non, oui, c'est pas vrai. Non, mais
bien sûr, on en parle souvent entre auteurs et avec les éditeurs, bien sûr, oui. Et là, dans ce cas, vous m'avez fait prendre connaissance en fait de cette bande dessinée. Je connaissais pas, mais c'est amusant le mélange entre le papier découpé et la haute technologie parce que ça pourrait être au crayon, au dessin, mais non, en plus c'est vraiment un travail assez artisanal. Oui. Je vous disais au début de l'émission, j'ai 38 ans et c'est très très vieux en fait, je crois, pour ces histoires de BD augmentées. Moi je me sens super vieille, je vais avoir un discours de vieille conne, pardon, c'est mettre un écran devant un livre, un papier,
je suis une vieille conne comme vous, moi.
Voilà, une vieille conne, mais sensuelle, Charline. C'est-à-dire qu'on aime le papier. On aime le papier et ces vieilles choses. Voilà, vieille conne sensuelle.
Et c'est
vrai que je crois que ça, c'est un exemple de bande dessinée parfait pour les gens qui ont 20 ans.
Augmenter, ça, on ne se prive absolument pas du papier. On a besoin du papier pour qu'elle soit augmentée. Donc,
D'avoir l'écran entre le. Enfin, j'ai pas fait l'expérience, mais d'avoir l'écran entre soi et. C'est comme d'avoir un iPhone entre. Déjà, pareil, l'iPhone, moi ça me fait toujours penser au pli qu'on a dans le cou, en fait.
Oui, voilà.
Ou au cancer qu'on aura bientôt avec les ondes. Donc je me pose la question, qu'est-ce que ça va devenir ce projet
Au cinéma, ça n'a pas super bien marché quand il y a eu des évolutions. La 3D, on n'est pas des dingues d'aller mettre les lunettes. Il y a eu de l'odorama. Il fallait gratter pour sentir l'odeur de ce qu'on voyait. Ça n'a pas super bien marché. Donc peut-être que le média...
Peut-être que c'est juste du gadget. Hein.
Ouais. Sans doute.
Et en tout cas, le côté innovation, je vous renvoie aussi aux grands espaces. Parce que quand votre petit personnage se prend d'aller se frotter à la vie la plus proche en sortant de son pré, de sa campagne, les innovations,
non, mais quand je viens parler de musique tout à l'heure, on aimerait peut-être bien que vous nous donniez la playlist de quoi écouter pendant qu'on lit votre livre.
Alors, vous allez dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, qui vend des huiles essentielles et des sacs en carton. Non, pas du tout, mais la bande-son, c'est pas mal de silence quand même. Désolée.
Non.
C'est bien. Et des oiseaux. Alors, j'ai toujours eu un rêve, c'est de connaître le chant des oiseaux, tous les oiseaux. Mais bon, j'avais ce rêve, la gamine.
Il
bon.
Y a une appli. Ah.
Alors, encore un écran. Mais je suis vraiment une vieille conne, je peux pas.
Nous avons passé toute la semaine avec Frédéric Fromet, c'était un bonheur. Il nous manque peut-être un épisode de Fred.
Voilà, et vous le savez, Frédéric Fromet, c'est quelqu'un de rond. Eh bien, il a quand même chanté Rien à carrer par rapport au...
Je vois.
Il y avait un jeu de mots.
Oh, dites-nous, c'est vous êtes fort. C'est vendredi, hein.
Oui. Allez,
et on rentre lundi, oh là là.
Frédéric Fromet.
Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, fuck la pollution, c'est que du toc, c'est un complot des Shintok. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, admettons que le réchauffement nous gagne, il fera enfin beau en Bretagne. En plein jour, faut que ça clignote, je laisse allumer les loupiottes. Si j'ai de belles baskets, je prends ma bagnole tout seul pour faire 500 mètres. Si les balais leur balayent, c'est à moi qu'ils doivent leur paye. Si les châteaux d'eau turbinent, c'est qu'il me faut 10 litres pour brosser mes canines. À 20 degrés comme je me les pèle, les radiateurs font du zèle. Je pourrais bien porter un pull crade, mais je voudrais pas qu'on me croie échappé d'une osade. Au supermarché, quel régal, faut voir un peu comme on emballe. Si le plastique n'est pas bon, alors pourquoi est-il mangé par les poissons? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tombe pas rond. Et puis après, la mort des insectes, pas de panique, qui peut blairer les moustiques? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tombe pas rond. Et puis après, si la météo fait des dégâts, ce sera la faute d'Evelyne Delia. La bouffe de saison locale, j'aime autant crever la dalle. Pour adhérer à une AMAP, faut sacrément aimer les choux de Bruxelles en grappe. Trier ses ordures, c'est chiant, ça nécessite de l'entraînement. Poubelle verte, jaune ou marron, faut avoir au moins fait question pour un champion. Au volant de mon gros 4x4, je me fous du glyphosate. Ok pour planter un boulot, si le but est d'y pendre un écolo. Quitte à choper la grosse dette, j'achète. J'ai tout en double, même en trip. Des trucs dont je me sers pas à consommer, c'est mon trip. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, on nous enfume avec l'effet de serre, sinon pourquoi encore l'hiver? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, admettons que ça chauffe un peu fort, c'est chouette pour ceux qui dorment dehors. Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, puisqu'on va tous finir au fond d'un trou, pourquoi s'infliger du tofu? Moi, la planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, toute une vie en bio. Et puis voilà, Tchernobyl ou Fukushima.
Alex, l'open space ferme ses portes qu'il n'a pas. Et c'est toute la beauté de l'absurdité de ce qu'on fait tous les jours.
Très bien.
Mais en tout cas, on se retrouvera lundi,
c'est sûr,
en direct, dans une forme.
Ah bah alors là, normalement, on est reposé.
Olympiesque, si je puis dire.
Olympissime, je pense qu'on
dit. Voilà, au moins.
À lundi.
À lundi.